Et vous nous écoutez également sur Medien.com et sur notre application Medien Radio. Tous les entretiens de cette émission sont à retrouver et à réécouter à la demande sur notre site. On essaie de comprendre ce matin la dépression postpartum. On fait le point sur ce phénomène assez fréquent et qui s'est renforcé donc pendant la crise sanitaire. On recevra à partir de 10h30 un spécialiste en psychiatrie, Dr Othman Lorabi, qui reviendra sur ces signes sérieux à prendre en considération et savoir bien évidemment définir une véritable dépression postpartum et ce qu'on appelle le baby blues. On essaiera de faire la différence et d'y voir plus clair. Alors, quand est-ce que la psychothérapie devient nécessaire? Comment agir face à une femme qui en souffre? Quelles peuvent en être les conséquences sur la maman et l'enfant? Et puis on reviendra également sur le rôle de l'entourage. Et avec nous aujourd'hui, eh bien, un témoignage comme on est, comme on les aime. Un témoignage d'une collègue, d'une amie. Alors elle, c'est une voix que vous connaissez forcément. Elle est avant tout une maman comblée d'un petit garçon âgé de 3 ans. Pourtant, Emna est passée par une période assez difficile suite à son accouchement en 2018. Elle a décidé de nous le raconter. Emna, bonjour.
Bonjour Myriam.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Merci d'abord de répondre présente à cette invitation puisqu'on a du mal forcément à en parler et je trouve que c'est très courageux de ta part. On va se tutoyer.
Oui, bien sûr, on va se tutoyer, on se tutoie hors antenne. Et bon, on est amis également et on est collègues. Oui. Et c'est vrai que quand tu m'en as parlé, je t'ai dit je le fais avec grand plaisir parce que j'aurais aimé, moi, le savoir, en entendre parler, peut-être plus en détail. Et justement savoir ce qui m'arrivait quand j'ai eu ma fameuse dépression postpartum. Donc je le fais avec énormément de plaisir.
Alors Amina, moi j'aimerais savoir c'est quoi ta relation? Cette relation avec les enfants, comment ça se passe?
Alors moi j'adore les enfants, moi j'ai une relation extrêmement proche des enfants et je le dis souvent, je respecte les enfants plus que les adultes. Parce que les enfants, voilà, ils n'ont pas de limites, ils n'ont pas d'a priori, pas de jugement. Donc j'ai une grande passion pour tous les enfants de tout âge, c'est quelque chose qui, je sais pas, c'est des petits anges sur terre en fait, tout simplement.
Oui. Alors cette grossesse, est-ce qu'elle était désirée? C'était en 2017-2018,
bien sûr qu'elle était, elle était désirée sans vraiment être désirée. En fait, je suis tombée enceinte. Voilà, je suis tombée enceinte. Je voulais encore attendre un peu, mais ça a été un événement heureux. Oui. J'étais tout simplement sur un petit nuage en apprenant que j'étais enceinte, bien sûr.
Alors, comment se sont passés ces 9 mois de grossesse?
Eh ben, écoute, Maryam. Voilà, j'ai appris que j'étais enceinte un peu tard, donc voilà, tout s'est bien passé. Et puis vers 3 mois, 4 mois de grossesse, je me rappelle, j'ai eu des saignements.
D'accord.
Ça arrive souvent, des petits saignements, et je me rappelle, c'était un dimanche. Mmh. Donc voilà, mon gynécologue n'était pas disponible, donc avec mon mari, on est parti aux urgences. Et là, le médecin urgentiste qui était là me fait une échographie et il me dit « Madame, écoutez, peut-être que c'est le début d'une fausse couche, je ne peux pas me prononcer. » Il se peut que demain, eh bien, vous ayez perdu le bébé.
Aïe.
Et là, je me rappelle, Maryam, ça a été un choc. Quelque chose de... Voilà, le temps s'est arrêté. Mmh. Je me suis dit, mon Dieu, ça va mal finir. Après, les gens doivent savoir, ça, puisque voilà, ça va être très important pour la suite de l'interview, j'ai un passif.
Oui.
Qui me prédisposait, si l'on veut, à faire ce genre de dépression postpartum. Voilà, quand j'avais 5 ans, j'ai perdu mon frère âgé de 7 ans, mon grand-père paternel et ma tante paternelle dans un accident de voiture. Donc je suis la seule, en fait, qui est véritablement survécu sans séquelles. Je suis une petite miraculée.
Oui.
Et ma mère n'a pas eu d'enfant après la mort de mon grand frère. Donc je suis fille unique malgré moi. Donc j'ai grandi avec ce trauma-là. 4 mois, 3 mois, les saignements. Oui. Et là, ça a été un traumatisme. Je ne te mens pas. Oui. Je me suis dit qu'en fait, je pouvais perdre ce bébé à n'importe quel moment, que je pouvais revivre ce qu'avait vécu ma mère en ayant perdu un enfant. Oui. Donc déjà, la grossesse, j'ai eu un état dépressif.
D'accord.
Mais sans me l'avouer à moi-même.
Donc, on va reprendre. Donc, le premier trimestre se passe très bien.
Exactement.
À partir du 4e mois, on va dire, Les choses se corsent.
Se corsent et j'ai été pendant plus de 5 mois alitée parce que le bébé avait mis la, s'était mis en position,
D'accord.
Donc la tête en bas,
d'accord.
À 5 mois, donc je devais rester alitée, menace d'accouchement prématuré, donc jusqu'au 8e mois, fin 8e mois, je suis restée alitée, donc de mes 6 mois jusqu'au 8e mois à peu près. Et 14 août 2018, voilà, ça
la
arrive.
La naissance.
Voilà, j'étais quand j'ai perdu les os à la maison, je me dis génial, j'accouche, c'est fini la délivrance. Et jamais autant mieux compris ce mot que la délivrance.
Oui.
On est délivré, c'est une renaissance, c'est une quelque chose de fabuleux. Donc on y va. Et voilà, le petit.
Et là, Yazan pointe son petit bout de nez.
Son petit bout de nez. Et là, c'est magique. C'est tout simple. Malgré un accouchement un peu compliqué, une césarienne d'urgence, bon, rien de très grave. Alhamdoulilah. Et voilà. Et je me rappelle, Mérim, de ce jour, parce que j'ai une césarienne et je ne pouvais pas relever la tête. Donc, je ne pouvais pas m'asseoir pendant quelques heures. Et je voulais mon bébé. On ne voulait pas me le donner parce que sinon, j'allais me lever. Et ça a joué, avec le temps, avec le recul, ça a joué beaucoup, je pense, sur ce qui m'est arrivé. Le contact entre le bébé et la mère, peu importe,
et là,
est très important.
Oui, on le rappellera. Puisque ça a été une césarienne forcément, et quand on est amené à faire une césarienne, on n'a pas ce contact direct dans les secondes qui suivent.
Exactement.
D'accord.
Donc je n'ai pas eu ce contact, et ça a été très difficile pour moi. Il faut que je le sente, il faut qu'on me le mette sur moi. Je ne pouvais pas allaiter, parce que j'avais beaucoup de médicaments donc dans le sang donc qui passent par le lait, alors que je voulais absolument l'allaiter les premières heures. Donc j'ai dû faire un choix donc de l'allaitement mixte, parce que ça a commencé comme ça. Et ça, c'est des petites choses, mine de rien, c'est des détails, mais qui ont une grande importance, je pense.
Vous trouvez ?
Enfin, avec le temps, bien sûr. Énormément, énormément.
D'accord. Alors, premier ressenti pour Emna, pour le papa, première réaction. Donc, quand Yazan arrive, voilà, on est content, mais il y a beaucoup de frustration. C'est ce que tu expliques.
Voilà, une frustration après avec la fatigue, bien sûr, avec le travail de l'accouchement, avec la césarienne. C'est pas facile, hein. Il n'y a que les femmes qui peuvent endurer ça. C'est pas du tout facile, on se rend pas compte jusqu'au moment où on le vit.
D'accord.
Et une frustration parce que je le voulais, cet enfant. Je voulais qu'il soit contre moi, le sentir. Et voilà, pendant ces 2 jours où j'étais à la clinique, ça n'a pas pu se faire.
D'accord. Alors, cette prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous, c'était à quel moment, Amna ?
Alors, ça a été un moment très précis, je m'en rappelle. Je ne pouvais pas rester seule avec Yazan. Donc, après les 10 jours où le papa était avec moi à la maison, il a fallu qu'il retourne au travail à un moment. Moi, j'étais en congé maternité et je me lève et je me retrouve avec ce petit bout de chou, cette petite chose, et je le regarde et la crise de panique. Vraiment, une énorme crise de panique, en larmes. J'appelle ma mère, j'ai la chance d'avoir une maman qui habite à côté de moi. Je dis, viens tout de suite.
D'accord.
Je ne peux pas m'occuper de lui. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il est en sécurité avec moi? Comment ça se passe? Et donc, je ne pouvais pas rester même une heure seule avec mon propre bébé sans paniquer, sans avoir des crises d'angoisse. Et je me rappelle, mon mari se levait très tôt à cette époque. Il commençait le travail vers 5h du matin. Donc, à 4h30, il sortait déjà de la maison. Déjà avec le manque de sommeil, la fatigue, ces bouleversements. On passe de jeune femme à mère du jour au lendemain. Et je me retrouve sur ma terrasse à 5h du matin. Le petit dormait, donc Yazan, petit bout de chou, un mois dormait, et j'avais peur de rentrer dans la même pièce que lui, de peur de lui faire du mal, de me faire du mal. En fait, c'est comme si je devenais moi-même sa propre mère, la chair de ma chair, comme si moi je pouvais représenter un danger potentiel pour mon enfant, c'est-à-dire que je le protégeais même de moi-même. C'est ce sentiment qu'il faut absolument protéger son bébé de n'importe quel danger, puisque je suis la seule à, entre guillemets, pouvoir le faire dans ma tête. Et j'avais même peur de l'approcher parfois.
Est-ce qu'on culpabilise à ce moment-là, Emna ?
Atrocement, parce qu'on culpabilise, pour nous la maternité c'est tout beau, tout rose, c'est voilà ce qui est dans l'inconscient collectif de tout le monde, peu importe les sociétés, et là on se retrouve dans cette situation en disant je suis une mauvaise mère, une mère indigne, cet enfant ne me mérite pas, pourquoi j'ai voulu devenir mère, il serait pas mieux avec une autre maman? Est-ce que ma mère s'occuperait pas mieux de lui jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il comprenne? Et il y a tout ça et on peut le dire à personne. Donc on joue en plus un double jeu. On fait comme si tout allait bien, on sourit, on est bien. Et en fait, non, on n'a qu'une envie, pleurer. Je ne dormais plus, je faisais des insomnies atroces, des crises d'angoisse, je ne mangeais plus. Et un truc Et là, c'est vraiment là où j'ai commencé à faire des recherches. C'était 6 mois après sa naissance. Ça dure dans le temps, en plus, c'est très vicieux comme
maladie. Justement, j'allais y venir. Est-ce que tu as le souvenir de combien de temps ça a duré, cet état?
Mais je te mens pas, Mariam. J'ai réalisé à 6 mois que ça n'allait pas du tout, qu'il y avait un problème.
Donc ça a duré 6 mois.
6 mois avant que je comprenne ce que c'était.
Oui.
Parce qu'un jour, je me rappelle, avant d'aller dormir, Yazan dormait déjà, je rentre dans la cuisine. Ça peut paraître dingue, hein. Je cache tous les objets tranchants de la maison. Ciseaux, couteaux, tout. Et je ferme ma clé. Et je mets la clé dans un endroit que personne ne peut atteindre. Et je sors, mon mari dormait déjà, et je me dis, qu'est-ce que tu viens de faire, Amna? Mais tu deviens folle. En fait, je me suis dit, mon cerveau me disait, mon inconscient me disait, et si tu te levais la nuit dans une crise de somnambulisme et que tu sais du mal à ton bébé ou à toi-même? Et là, j'ai compris. Je dis, Amna, tu vas t'asseoir 2 secondes avec toi-même. Tu ne feras jamais de mal à personne, surtout pas à ton enfant. Et maintenant, il faut que tu comprennes ce qui t'arrive. Mmh. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches donc sur Internet. Et j'ai compris ce que c'était la différence entre le baby blues qui
voilà,
dure
c'est ça.
Quelques semaines.
Oui.
C'est le changement hormonal
en
maximum.
Oui.
Toutes les mamans ou les 3/4 des mamans passent par ça. C'est le changement hormonal, physiologique, le statut de mère, tout ça.
Là, tu parles de 6 mois, c'est autre chose.
6 mois et ça a duré jusqu'aux 2 ans de Yazan. C'est-à-dire que j'ai fait un travail sur moi-même parce que j'ai compris ce qui m'arrivait. Et puis, en fait, c'est très vicieux comme truc, comme maladie, la dépression postpartum, puisqu'après, qu'est-ce que ça va faire? Ça va changer de forme. Est-ce que mon enfant évolue bien? Est-ce qu'il parle normalement? Pourquoi il ne parle pas comme les autres? C'est une inquiétude. Ça prend une autre forme, en fait. Ça se détache de soi et ça se colle sous une autre forme d'inquiétude, d'angoisse.
Alors, on a parlé du vécu. Peut-être que ça vient de là aussi. Tu le disais tout à l'heure, Amna. Est-ce que tu penses que c'est intimement lié à ton vécu, à toi?
Je pense que j'avais un terrain prédisposé à vivre ce genre de choses. Ça peut arriver à n'importe quelle femme. Hein. Vraiment, c'est pas parce qu'on est sensible, on a des états, on a un terrain dépressif, on a vécu des traumas. Non, pas du tout. C'est des choses qui favorisent l'apparition d'états dépressifs comme le postpartum, bien sûr, la dépression postpartum. Mais moi, je pense que c'est intimement lié à mon vécu de petite fille, de cet accident où je suis la seule à avoir survécu, d'avoir perdu mon frère. Et le hasard, la vie a voulu que Yazan ressemble extrêmement à mon frère.
Oui.
Donc, qu'on le veuille ou pas, hein, on fait comme une association inconsciente et on a peur de revivre ce qu'a vécu sa mère, perdre un enfant.
Oui.
Donc on devient soi-même potentiellement un danger pour son propre enfant. C'est-à-dire que même moi, je peux être un danger pour mon enfant. Et la dépression postpartum, il faut le savoir, peut virer en délire psychotique.
Oui.
Et ça peut très, très, très mal.
Très mal se terminer.
Tourner.
C'est vrai. Alors, je rappelle qu'on aura avec nous un psychiatre dans quelques minutes. Un psychiatre grâce auquel on essaiera de comprendre certaines choses. Amna, une petite question. Comment ça va aujourd'hui?
Eh bien, ça va très bien parce que j'ai eu des clics et j'ai compris ce qui m'arrivait. Donc, j'ai fait un gros travail sur moi-même.
Tu as eu besoin d'un
suivi. À un moment, quand le petit a eu 2 ans et demi, donc il allait en crèche, que tout se passait bien. Et j'ai voulu, moi-même, aller voir une psychologue pour comprendre pourquoi j'avais autant peur pour mon enfant. Et en fait, on était d'accord. Je suis arrivée en ayant déjà compris ce qui m'arrivait. Et j'ai fait quelques séances. Ça m'a confirmé le diagnostic de pourquoi je pensais que Yazan avait un retard, alors que pas du tout, pourquoi il était comme ça. Et pas... En fait, c'était dû à ce postpartum. En fait, c'est une maladie, c'est un état, une maladie très, très vicieuse. Vraiment, ça prend plusieurs formes, comme toutes les maladies nerveuses. C'est très compliqué à cerner.
Comment va Yazan?
Eh bien, il va très bien.
Et il a quel âge?
Il a 3 ans et 4 mois.
3 ans et 4 mois, il va bien?
Il va très bien. Très, très bien. Et c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai dans mon monde à moi.
Des regrets au jour d'aujourd'hui, Amna?
Des regrets, non, pas du tout. Si je devais refaire ça, je le referais avec plaisir parce que c'est l'amour de ma vie, c'est Yazan.
Il vous en parlait, tu en parles et tu en as les larmes aux yeux.
Oui, non, mais je le referais même pour un autre enfant. Hein,
oui.
Parce que les enfants méritent, à mon sens, tous les sacrifices. En devenant mère, on sait qu'on aura un jour ou l'autre à se sacrifier pour son enfant, c'est normal.
Et la transition est très bien faite, Amna, puisque j'avais une petite question.
Bien sûr, je t'en prie.
Est-ce qu'il y a ce désir de retomber enceinte?
Mais bien sûr, c'est dans la nature, je pense, de toute femme, en tout cas la plupart, de vouloir devenir mère. Et c'est vrai que j'y pense, je me dis, ah, qu'est-ce que j'aimerais encore retomber enceinte et vivre cette grossesse pleinement. De pas, même si j'ai des chances de récidive, les femmes qui font une fois le postpartum, le psychiatre le confirmera quand vous l'aurez, on a plus de chances de faire des récidives. Mais peut-être que maintenant, je suis plus familière avec la chose. Et je le referai. Bien sûr qu'il y a un désir d'enfant, ça ne m'a pas dégoûtée. Mais c'est vrai que ça me fait peur de revivre ça, de passer par autant d'étapes. Mais ça m'a renforcée dans mon statut de mère, de femme. Et comme je le dis, le jour où Yazan est né, je suis morte. Je suis morte et j'ai... ça a été une renaissance pour moi. Donc, au contraire, ça a fait la femme que je suis aujourd'hui, la maman que je suis aujourd'hui. Et à toutes les femmes qui nous écoutent, oui. Vous n'êtes pas seules, vraiment. Mmh. Je pensais être seule et j'ai découvert dans mon entourage pas mal de femmes aussi qui ont souffert de ça, voire même de manière très grave, plus grave que moi. Et s'il vous plaît...
Et ces femmes, est-ce qu'elles ont pu en parler ?
Non, c'est tabou, c'est horrible. Oui. Mais on en parle une fois qu'on s'est rendu compte. Il y en a parfois qui n'en parlent pas du tout, qui le vivent très mal. Ça mène à des séparations avec le conjoint, parce qu'on ne parle pas du conjoint. Mais lui aussi, les hommes font des... sorte de postpartum après la naissance.
Et on reviendra sur ça avec notre spécialiste tout à l'heure. Amna, dernière question. Bien qu'est-ce sûr. Qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
Comme toute maman, que voir mon fils grandir avoir le plaisir de le voir grand, un homme qui aura réussi dans sa vie. Et vraiment, à toutes les femmes qui m'écoutent, s'il vous plaît, parlez-en, ce n'est pas tabou, cherchez de l'aide à côté. Et même les belles mamans qui nous écoutent, les sœurs, les copines, faites attention parce qu'il y a des signes, il y a des signes qui ne trompent pas.
Et on parlera de ça, de ce rôle, de l'entourage justement, avec notre spécialiste en psychiatrie. Dans quelques minutes, vous restez avec nous, on reviendra sur le rôle du papa, Amna, comme tu le disais, et puis le rôle de la maman, de la belle-mère et de tout exactement. L'entourage. Il faut en parler surtout, ce n'est pas un sujet tabou. Merci beaucoup Amna pour
merci
ta confiance
toi,
surtout.
Bien sûr et comment.
Et c'était très intéressant, on aurait pu rester encore 20 autres minutes malheureusement.
Quand tu veux.
Merci beaucoup encore une fois Amna.
Merci à toi
et
Marie,
on
vraiment.
Te souhaite tout le bonheur pour la
toi
suite.
Toi aussi.
Un grand bonjour à Yazan.
Coucou Yazanou.